Nous vous donnons rendez-vous pour le salon de la voyance et du bien-être à Mazagar. Salle des fêtes, rue Décatoir, les 10 et 11 octobre 2020, de 10h à 19h. Vous y trouverez des voyants, des lignes de la main, un magnétiseur guérisseur, des médiums, contact avec les défunts, de la communication animale, de la lithothérapie, des bijoux magnétiques, une boutique ésotérique, des vêtements, du prêt-à-porter féminin, des chaussures et accessoires, des créations textiles, des produits cosmétiques à base d'aloe vera, ainsi que des parfums et huiles. Des conférences gratuites vous seront proposées durant tout le week-end. L'entrée est fixée à 2 euros. Attention, le port du masque est obligatoire. Tous les bénéfices seront reversés à l'association Soliand, Solidarité aux handicapés. Plus de renseignements au 06 29 57 50 32. A bientôt.
À Montigny, chez Belle-Fleur et Pape Maison, je m'appuie au garçon, Isaac, à travers, des couleurs de Chine pour une fête.
Eh ben, à cette bon, ça doit être un bio magasin.
Ben, t'es trouvé tout chez Cathy à Fleurs de Chine. Des cadeaux pour chez anniversaire, des fleurs pour chez mariage, et même des dragées pour chez communion.
Mais ça doit quand même coûter cher, cette affaire-là.
Ben non, tu peux même payer par carte bleue de Chetty.
Fleurs de Chine, Grand Place, à Vingles. Toutes vos commandes au 03 21 79 91 23.
Chez Cathy, chez tout des fleuries.
La boulangerie Jeanne et Joël Bultel, 45 rue de Lens à la Bassée, vous propose pains spéciaux, pains sans sel sur commande. Ses nombreuses pâtisseries et la spécialité de Joël, tarte à l'ancienne et aussi traiteur, tartine à jojo, tarte maroilles, pizza, quiche. Téléphone boulangerie Bultel au 03 20 29 00 91. Attention, la boulangerie est ouverte toute la semaine de 6h à 20h et fermée le dimanche.
I'm a soul singer. I can't live without your love. I can't live without your love. My mind is always in a rush. Sometimes I love you way too much. I can't live without your love. I can't live without your love. My mind is always in a rush. Sometimes I love you way too much. It's a strange game you and me play. It's a night move, such a hot day. Trying to keep cool, stuck in my head. Think about you, just can't get away. Without your love, I can't live without your love. My mind is always in a rush. Sometimes I love you way too much. It's a strange game you and me play. It's a night move on such a hot day. Trying to keep cool, stuck in my head. Think about you, just can't get away. Just can't get away.
À l'émission Chez Betty, femme d'un jour, femme toujours, une émission dédiée à la femme, son histoire, son inactualité, ses petites manies, son impertinence, d'hier à demain, de l'humour à l'amour, de récits, de sujets, d'invités et d'artistes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la peur des hommes concernant les femmes. Coco va nous rejoindre dans quelques minutes et tout de suite, nous allons passer à la rubrique « Confiance en soi ».
Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow back to you.
Notre rubrique confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi ne pas augmenter votre confiance en vous pendant les vacances. Justement, de prendre les vacances pour travailler là-dessus. Surtout, vu la situation actuelle, pourquoi pas prendre du temps pour soi, puisque nous ne devons plus ni sortir, ni nous amuser. Donc, je vous invite à prendre un crayon et un papier et de noter toutes les petits détails que je vais vous formuler. Donc, pourquoi ne pas profiter des vacances pour travailler un peu sur vos faiblesses? Si vous avez souvent des doutes, si vous avez des difficultés à prendre des décisions, ou vous souhaitez mieux vous positionner face à vos collègues ou un supérieur, c'est votre confiance en vous qu'il faut travailler. Rien de mieux que les vacances pour booster en douceur. Suivez ces conseils. Je vais vous raconter l'histoire de Marianne, membre d'un programme. Après un burn-out suite à son premier contrat dans le monde professionnel, elle a eu besoin de reconstruire sa confiance en soi. Malheureusement, ça n'était pas les vacances, une période beaucoup moins sympa pour faire ce travail. Sans en arriver à un cas aussi extrême, pourquoi augmenter votre confiance en vous ? Premièrement, cela vous permet de mieux vous positionner dans vos environnements. Vous limitez l'influence des autres sur vous et vos décisions. Vous vous sentez plus en accord avec vous-même. Votre relationnel s'améliore. Comment et par où commencer ? Une première étape toute simple mais nécessaire pour celle de prendre conscience que l'on a besoin justement de plus de confiance en soi. Et vous l'avez déjà atteinte si vous êtes déjà en train de m'écouter. Donc on dit bonjour à Coco qui vient de nous rejoindre.
Bonjour.
Donc je continue. Du coup voilà Coco, tu m'as déconcentré, je ne sais plus.
Désolé.
Alors la confiance en soi est liée à notre amour propre et ce n'est pas facile pour tout le monde. Nous vous proposons donc de débuter par un petit exercice. Se regarder dans le miroir et se dire qu'on s'aime. Ça paraît tout bête, mais c'est déjà un grand pas. Faites-le et rejouez la scène très souvent. Cet exercice vous a coûté, répétez-le plusieurs jours de suite, voire plusieurs fois dans la journée, jusqu'à sentir ce que vous dites. Et ensuite, eh bien, le travail sur du long terme peut commencer. Alors Coco, t'as essayé ?
À dire que je m'aime.
Oui, voilà.
Je le fais tous les matins,
bien sûr. Sans miroir.
Oui, sans miroir.
Ouais, voilà, sans miroir. Alors, menez une introspection pour l'écriture quotidienne. Donc, Marianne adorait écrire et cette étape lui semblait agréable et facile. Il résulte que cela n'est pas aussi facile qu'on peut s'imaginer pour tout le monde. Tous les jours, prenez le temps d'écrire 3 pages de cahier au réveil. Déjà, il faut être réveillé, parce que moi, c'est pas le cas. Donc, d'abord, il faut se lever un peu plus tôt que prévu.
En plus.
Mais bon, quand on est motivé, on fait. Voilà. Ou alors, à la rigueur, écrivez le soir, avant de vous coucher. Ça peut être libérateur pour bien dormir.
Peut-être
possible
aussi. Oui.
Donc, quand on est en vacances, du coup, c'est encore mieux, puisque comme on a fait la grasse mat, dans la logique, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur ces pages ? L'idéal est de les faire pendant 3 mois. Ou du coup, pendant les vacances, 15 jours, puisque si on prend les vacances de Toussaint. Mmh. Sur ces pages, vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête. C'est aussi simple que ça. Pourtant, vous verrez que vous aurez souvent la flemme ou bien cela résultera plus difficile que prévu. Au bout de quelques jours, réalisez quelques exercices. C'est une bonne manière de travailler en s'amusant un peu. Non seulement ça libère, mais ils permettent également de réellement mieux se cerner. Les voici dans le désordre. Piochez selon ce qui vous inspire le plus. Imaginez vos 5 vies alternatives. Parallèles, s'il faut faire. Si vous aviez pu être un astronaute, un président, une sorcière, un sportif, etc., écrivez ce qui vous arrive et comment sont vos vies alternatives. Deuxièmement, faites un collage de ce qui vous inspire. Cherchez dans des journaux des images, des mots, de ce qui vous inspire et réalisez un collage inspirant. Troisièmement, faites une liste de 10 plaisirs et essayez de réaliser un chaque semaine ou plus souvent puisque votre temps est limité. Ça, c'est pas mal. Ouais. Faites un cercle Au centre, incluez toutes les personnes qui vous aident, qui sont une force pour vous. Et à l'extérieur, écrivez les noms de ceux ou celles qui, au contraire, vous amoindrissent, qui vous font peur. Cela vous permet de mieux appréhender votre entourage et de ne pas tomber dans les pièges des manipulateurs ou de ceux qui vous rabaissent. Si vous en sentez la force, identifiez les personnes que vous ne voulez plus dans votre vie et coupez le cordon.
Oui.
C'est pas facile à faire, mais bon.
Pas toujours.
Pour Marianne, ses exercices d'écriture ont été très importants et à relire ses pages, elle s'est rendue compte que pas mal de choses la tracassaient et qu'elle devait travailler là-dessus. C'est un excellent outil. Petite info, relisez vos pages après une semaine d'écriture, pas avant. Cela vous évitera de vous juger trop prématurément.
Ouais.
Dressez une liste de vos envies et de vos attentes. Rien de tel pour savoir où on en est. Qu'est-ce que vous voulez là, maintenant, tout de suite ? Coco ?
Une tasse de thé.
Ça, c'est réalisable. Hein, enfin, pas dans l'immédiat, mais c'était réalisable. Alors, on a souvent des idées farfelues qui nous viennent à l'esprit et on se bride. Ne mentez pas et ne vous bridez pas. Mettez toutes ces idées par écrit. Elles en disent plus long sur vous que vous ne le pensez. Qu'attendez-vous de votre travail, de votre famille, de vos amis et pour finir, de vous-même. Listez vos attentes. En avoir conscience vous permettra de les travailler pour ne pas être déçu ou vous mettre des objectifs en dessous de ce que vous pouvez fournir. Cet exercice est difficile. Dédiez-y du temps, revenez-y souvent. Pas besoin de le faire en une session, vous pouvez le faire sur plusieurs jours. Tranquillement.
D'accord.
On ne sait pas, des fois, l'envie, voilà, sur le moment, elle arrive
voilà,
parfois après.
Tout de suite.
Ouais. Ouais. Sortez de votre zone de confort.
Ouais.
Faut y arriver.
Oui.
Alors, pratiquez une langue ou une nouvelle activité. Bon, ça, c'est encore assez simple. Hein. Vous êtes le genre de personne qui dit souvent non par peur du ridicule, de ne pas réussir.
Ouais.
Parfois. Enfin, maintenant, beaucoup moins. Pour changer cela, il n'y a pas grand-chose à faire, ou plutôt si, il faut se jeter dans le bain, ou à l'eau. Et le moment des vacances est parfait pour le faire. En voyage ou près de chez vous, il y a mille et une activités à faire qui vous font peur, vous impressionnent, ou bien vous tentent, mais que vous n'avez jamais osé faire. Profitez des vacances pour vous faire plaisir tout en boostant votre confiance. Essayer une nouvelle activité, c'est sortir de sa zone de confort et ça, c'est parfait pour votre confiance. Faites un saut en parapente. Prenez un cours de pole dance.
Ouais.
Et ben, du coup, j'ai perdu ma ligne. Oh, ben, voilà, ça y est. Faites de l'escalade. De la plongée.
Non.
Non. Ce qui. Bah, tu vois, faut te sortir de ta ligne de confort, là, Coco. Ce qui vous dit, mais vous fait peur, à la fois, il y aura toujours une activité dans vos moyens. Pour vous aider à identifier une activité, demandez-vous, qu'est-ce que j'aimerais faire, mais que je n'oserais jamais. Et c'est là qu'il faut piocher.
D'accord.
Maintenant, comme tu viens de dire non à la plongée, t'es obligé.
J'apprends à nager déjà.
Voilà.
Ça va être compliqué quand même.
Non. Ne vous reposez pas sur ceux qui vous accompagnent pour communiquer et se lancer avec vous. Il faut faire ça tout seul.
Ouais.
Cela peut être seulement quelques mots au départ, des questions, puis peut-être une petite conversation. Vous en êtes capable. Réussir cette activité ou cette pratique va vous donner des ailes. Je vous l'assure, c'est fou comme un détail peut vous transformer.
Mmh.
Bah, c'est comme quand tu fais... les grands manèges à sensations. Hein.
Oui.
Tu sors les genoux en coton, mais tu ne serais pas y retourner quand même.
Oui, voilà.
Changez quelque chose dans votre style pour vous sentir plus à l'aise avec vous-même. Justement.
Oui.
Alors, nos habits, notre look, c'est l'image qu'on donne de soi. À part si on est habillés tous pareil.
Oui.
En êtes-vous content ? Y a-t-il quelque chose que vous voudriez changer ? Coco.
Moi ?
Ouais.
Non.
Rien du tout ?
Non.
T'es contente de ton
oui,
style alors.
Je me plais comme ça.
Bah, c'est très bien. Donc pendant les vacances ou quand vous avez quelques semaines devant vous, pour tester quelque chose de neuf sans subir le regard de trop de personnes, le timing parfait pour voir si cela vous plaît et vous y habituer avant de l'assumer devant les autres. Pour ma part, ça a été de mettre, à ton avis,
de mettre
moins de vêtements. Donc, ah. Pour d'autres, ce seront les coupes de cheveux ou bien des lentilles de couleur pour les yeux.
Ah bon?
Mais ouais, mmh. Bah, y a des gens, pas beaucoup de choses va les déstabiliser. À vous de voir ce qui vous manque pour vous sentir imbattable.
Voilà.
Voilà. Okay. Donc changez quelque chose dans votre attitude, comme faire des tatouages.
Mmh.
Pourquoi pas?
Oui.
Gagner en zen attitude grâce à la méditation et au yoga. La confiance en toi, en soi, c'est aussi la capacité de se rasséréner et de se dire tu peux. Pour moi, les mantras m'ont énormément aidé. Un moment de panique et de peur face à un projet, une représentation, un petit mantra entre les lèvres et une bonne respiration et hop, c'est reparti, on y va. Voilà. La respiration, en fait, elle aide beaucoup.
C'est important.
Ouais. Ouais. Il y a de nombreux supports qui vous permettent de vous mettre à la méditation et au yoga tout en douceur. Et en plus, c'est gratuit. Tentez l'expérience donc pendant les vacances. Pas besoin d'investir des heures. 10 minutes de méditation ou 15 minutes de yoga sont parfaits pour commencer. C'est déjà un premier pas vers une pratique plus nourrie, si cela vous en dit par la suite. La respiration aide beaucoup. Dites non à quelqu'un ou quelque chose que vous ne voulez pas et recommencez. Dites non et l'assumez. Quand on manque de confiance en soi, ce n'est pas facile. On se dit toujours, si je dis non, qu'est-ce que pensera cette personne? Et les autres, que vont-ils dire? Envoyez les autres bien loin de votre esprit. Il s'agit de vous et de votre confiance en vous. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, dites-le. C'est une excellente manière de faire présence et d'assumer vos envies et valeurs. Dire non, c'est le reflet de votre confiance en vous. Vous avez la confiance suffisante pour assumer une position personnelle. Faites-le et recommencez.
Voilà.
Bah, après, il ne faut pas dire non tout le temps. Mais voilà.
Oui, il faut trouver la bonne mesure.
Hein. C'est ça. S'éloigner des personnes toxiques et nouer de nouvelles relations. Vous vous rappelez la liste avec le cercle des exercices d'écriture? Il est temps de la ressortir. Ces personnes hors du cercle vous font du mal. C'est peut-être à cause d'elles que vous n'avez pas confiance en vous. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec toutes, bien sûr, car ce sont souvent des proches ou des collègues avec lesquels vous devez communiquer régulièrement. Mais vous pouvez changer votre manière d'aborder ces personnes ou limiter les interactions. C'est à vous d'aborder une stratégie. Vous avez le temps de le faire, mettez-la par écrit. Ces conseils sont des astuces qui peuvent énormément aider. Cependant, parfois, ce n'est pas suffisant. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller voir un professionnel, un psychologue, pour travailler sur certains points.
Bien, bien.
Voilà. Mmh. Donc, vous avez du boulot pendant les vacances.
Voilà.
Angèle, on passe une petite musique ?
Oui. Donc, alors, cette fois, je vais vous passer Sadie de Joe Betten et Jocelyn Brown, sorti en 1980.
Et après, on passera aux actualités féminines.
She's
nous voici de retour pour l'actualité féminine. Ce 21 septembre, la cour d'appel de Versailles... Coco, tu fais du bruit, hein ? Ce lundi 21, la cour d'appel de Versailles a rendu une décision particulièrement rare. Après qu'un père ait tenté de tuer sa compagne en présence de leur fille, l'homme a été déchu de tous ses droits parentaux sur l'enfant. Enfin.
Bien, enfin, ça bouge. Oui.
Alors, lors de l'ouverture du Grenelle sur les violences conjugales de septembre 2019, Édouard Philippe assurait que tant que les hommes se convaincront qu'ils peuvent frapper leurs femmes et leurs enfants sans être de mauvais pères, on peut hélas redouter qu'ils continuent à le faire. Oui, bah, depuis le temps qu'on le dit. Donc, un an plus tard, donc il a fallu quand même qu'attendre un an. Lundi 21 septembre 2020, la cour d'appel de Versailles semble s'être souvenue de ces mots en enlevant ses droits parentaux à son enfant. Sur son enfant, à un père qui avait tenté de tuer sa compagne sous les yeux de leur fille. Dans la nuit du 16 au 17 avril 2018, il faut attendre avant que la justice soit rendue, Laura Rapt est victime d'une tentative d'homicide par son ex-compagnon, père de leur fille Alice. Il m'a cogné la tête contre le mur, le sol, il m'étranglait, je ne respirais plus. Il s'est arrêté parce que les voisins ont sonné à la porte, ils m'ont sauvé la vie. Il est parti dans la chambre de notre fille alors que je rampais pour trouver un double des clés. J'ai ouvert la porte et mes voisins qui étaient en train d'appeler la police. Lui s'est échappé, confie-t-elle dans un entretien avec Paris Match. Plus de 2 ans après cette tentative d'homicide, Laura Rapt est soulagée par la décision de la cour d'appel de Versailles. Mon ex ne pourra plus avoir conscience de quoi que ce soit qui concerne ma fille, qu'il ne pourra plus ni donner son avis, ni l'approcher. Alice est enfin protégée, avoue-t-elle. Il est rare qu'un juge décide de retirer les droits parentaux, y compris dans un contexte de violence interfamiliale et de féminicide. Cet arrêt de la cour d'appel fait jurisprudence pour les autres femmes, se félicite Nathalie Tomasini, l'avocate de Laura. Un homme violent ne peut jamais être un bon père, assure le député LR Aurélien Pradier, en précisant qu'il voudrait que cette loi devienne obligatoire. Les juges reconnaissent enfin en 2020 qu'un homme qui a tué sa compagne qui essaie de tuer sa compagne, n'est pas un bon père. C'est une décision exceptionnelle qui va servir aux autres femmes, aux autres enfants. J'espère que le prénom d'Alice va résonner dans tous les palais de justice, déclare à son tour Laura Rapt. Après avoir tenté de la tuer, le père de sa fille a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle et à 5 ans de suivi socio-judiciaire, alors que les conseils et l'avocat général avaient demandé la déchéance de ses droits parentaux et le président de la cour d'assises et de ses 2 assesseurs l'ont refusé. Pourtant, les violences de cet homme ont inévitablement eu des répercussions sur l'état psychologique de la petite Alice, diagnostiquée avec un trouble traumatique majeur. La nuit où son père a essayé de me tuer, comme si le temps s'était arrêté pour elle. Elle fait des cauchemars, avait des flashbacks jusqu'à en faire des crises de panique, explique la maman, qui s'inquiète de l'impact que cela pourrait avoir sur sa fille à l'âge adulte, car bien souvent, les enfants traumatisés par la violence risquent de devenir à leur tour soit des agresseurs, soit des victimes. Laura Rapt a subi des violences de son ex-mari pendant 4 ans, mais affirme qu'il est difficile de réaliser qu'on est victime de violences et d'en parler autour de soi. Il m'avait déjà menacé de mort avec un club de golf devant Alice, mais je n'avais pas osé porter plainte. De l'aveu même des policiers qui sont intervenus, une plainte ne servirait pas à grand-chose si je ne présentais pas de traces de coups. J'avais peur que ça ne se retourne contre moi si je parlais, admet-elle. L'autorité parentale est ce qui permet aux hommes violents de continuer à persécuter leur ex après la séparation. L'enfant devient le levier pour atteindre la mère, ajouta-t-elle. Son ex-compagnon a été remis en liberté le 14 février 2009. Laura Rapt s'est retrouvée obligée d'engager un détective privé pour prouver que son ex avait enfreint plusieurs reprises son contrôle judiciaire. Elle a également lancé un appel de détresse sur Twitter. Les médias ont repris mon histoire et une semaine après, mon ex a été remis en détention provisoire pour toutes les infractions que mon avocate dénonçait depuis 2 mois et demi. Sans la force des réseaux sociaux, le juge d'instruction n'aurait jamais répondu. regrette-t-elle en expliquant qu'elle souhaite une nouvelle structure, une réforme structurelle de la justice et une vraie protection de l'enfance, car on ne peut pas protéger les mères victimes de violences sans protéger les enfants. Protéger un enfant de parents violents, c'est protéger son innocence, sa personnalité, l'adulte qu'il sera. Quelle société veut-on pour demain ? Il faut sortir les enfants du cercle de la violence et ne plus risquer d'en faire des futurs agresseurs ou futures victimes. Mon ex-compagnon s'est privé lui-même de sa fille en essayant de me tuer devant elle. C'est fou, hein ?
Ouais.
C'est fou qu'il ait fallu attendre 2020 pour qu'il y ait quelque chose qui bouge.
Espérons
enfin.
Que ça continue.
Ouais. Ben oui. On verra bien. Peut-être, peut-être pas. Alors, un petit truc un petit peu plus rigolo, quelque part. Koh-Lanta. Et si on lâchait les poils des candidates ?
Ah.
Eh bien, hein, c'est un jeu et on parle des poils.
Ouais.
C'est fou, hein ? Alors, lors du dernier épisode de Koh-Lanta, les quatre terres, Alix a brillé par ses performances. Mais certains internautes ont préféré s'intéresser à ses aisselles, plus exactement, aux quelques poils qui y poussaient. Un nouvel exemple de l'obsession des réseaux sociaux pour l'apparence des candidates.
Ouais.
Non mais c'est fou, hein ?
Incroyable.
Ouais. Voilà, on fait une fixette sur les poils. Ouais. En même temps, je pense pas qu'à Koh-Lanta, t'aies des rasoirs à disposition, oui. Déjà premièrement. Alors si on adore Koh-Lanta, les intrigues, le drama, elle est toute cantée.
Oui.
Certains commentateurs nous tapent sur les nerfs. Donc vendredi 25 septembre, ils ont presque réussi à nous gâcher un épisode pourtant trépinant en s'en prenant à Alix. En effet, la nouvelle capitaine des jaunes s'est illustrée par une incroyable victoire, alors que l'épreuve du pilori, qui oblige les candidats à rester accrochés bras en l'air à de fins poteaux, montrant ainsi leurs aisselles pendant toute la séquence. Drame, les dessous de bras d'Alix sont apparus poilu. Impensable pour ceux qui estiment qu'une vraie femme doit être satinée en toutes circonstances, même surtout quand elle participe à un jeu de survie sur une île au bout du monde.
Ouais, bien sûr.
C'est fou, hein. Alors, je commente un petit truc qui était sur Twitter. Ils auraient dû mettre à Alix que l'épreuve allait afficher ses aisselles mortes de rire. La pauvre, pendant une heure, elle a montré ses poils à la France.
Ah oui, c'est vrai que c'est tellement...
C'est la fin du monde.
Oula.
Mais pendant que nous maudissons les effets du patriarcat, qui se font sentir même quand on chille sur notre canapé un vendredi soir, Alix préparait tranquillement sa réponse, qu'elle a partagée sur Twitter. Une nouvelle marque de badasserie saluée par Denis Brognard lui-même. La vraie, les poils. Apparemment, en 2020, même lorsque tu pars pour faire une aventure en mode survie, la pilosité féminine reste un tabou. Voilà.
Incroyable.
C'est fou, hein ?
Oui.
Voilà. Donc, le bikini de la Discord, si cette affaire de dessous de bras a fait couler beaucoup d'encre, ce n'est pas la première fois que l'apparence physique des candidates est source de débat. Pas plus tard que le 28 août, les aventuriers de la tribu verte avaient utilisé une tresse d'Adja, candidate afro-descendante, pour allumer leur feu. Non sans lâcher quelques vannes douteuses, les internautes racisés, et en particulier noirs, en avaient profité pour rappeler que leurs cheveux et coiffures n'avaient pas vocation à amuser la galerie. Voilà.
Ah là là.
Oui. Mais je ne savais pas que avoir des poils sous les bras...
Voilà alors.
Ah. Hein, ça permettait autant...
Donc, la pudeur.
Oh, bah écoute, hein. Tant que c'était que sur les bras, ouais. Je dirais. Mais par contre, les mecs, ça ne gêne pas.
Non.
Non.
C'est normal.
Alors, la ménopause.
Oui.
Qu'on n'en parle pas beaucoup. Ce documentaire inédit brise les tabous. Donc, si on parlait ménopause... Ce soir, France 2 diffuse un documentaire, enfin c'est pas ce soir, c'était il y a quelque temps, diffuse un documentaire, alors consacré à ce sujet que la majorité des personnes avec un utérus auront à vivre et qui reste pourtant tabou.
Oui.
Le plus ici, ce sont celles qui le vivent et qui le racontent. Donc Blandine Grosjean, qui avait réalisé l'excellent documentaire « Sexe sans consentement », dénonçant les dangers de la zone grise en matière sexuelle, s'attaque ce soir à un autre sujet, lui aussi très peu traité par les médias, celui de la ménopause. arrivant en moyenne entre 45 et 55 ans. Oh bah la vache, j'ai intérêt à me faire dire. Moi, je pensais pas que c'était ouais, entre 45. Alors, ah bah oui, comme j'en ai 44, bon bah alors, faut que j'anticipe. Donc, des groupes d'études sur la ménopause et le vieillissement hormonal, ce phénomène biologique touche les personnes dotées d'un utérus. Ouais. On est mal, franchement, les femmes, hein, t'as pas de chance. Hein. Alors, pourtant, comme en témoignent les femmes interrogées dans Ménopausée, personne ou si peu n'en parle. Ce basculement reste du coup un mystère que l'on doit vivre seul et sans se plaindre sous peine de passer pour une vieille. Insulte ultime pour une femme dans notre société. Pour en finir avec les stigmates, ce document est donc essentiel. Des témoignages pleins de vie et de joie dans le film de Blandine Grosjean fait intervenir cette femme qui se confie de façon drôle et intime. Pas d'experts, pas d'hommes, on est embarqué comme dans un groupe de paroles filmé en pleine nature. Les femmes interrogées racontent leurs symptômes et comment elles les ont vécus. Certaines se pensaient en dépression, ne connaissant pas les manifestations physiques de la ménopause. L'une avoue même, pour moi c'était surnaturel et flippant. Toutes dénoncent la pression sur les femmes en âge d'être ménopausées, leur invisibilisation, les chamboulements hormonaux et les traitements possibles. Elles parlent aussi de désir, de ce corps qui change et qui est aussi source de nouveautés. Elle évoque enfin le fait de devenir grand-mère et la difficulté d'être perçue comme âgée.
D'accord.
Le bonus, malgré tout, une forme de sérénité quand on trouve l'équilibre. Bon, ça, je dirais quand même un petit peu avant d'être ménopausée, quand même. On se saurait que trop vous recommander de vous pencher là-dessus, aller regarder en replay donc ce documentaire fait par Nadine Grosjean.
Oui, ça doit être bien intéressant. C'est vrai.
Voilà, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas
très
assez.
Peu, oui.
Ouais. C'est pas remettons les femmes au goût du jour. Alors, petite anecdote un petit peu plus marrante.
Oui.
La youtubeuse réplique aux commentaires sur son physique, comme à son habitude, avec humour et légèreté. Alors, je vous dis qui c'est. Donc, Léna Mafouf, alias Léna Situation, est une youtubeuse française ambitieuse et énergique qui a réussi à créer une communauté très fidèle de fans depuis son arrivée sur YouTube en 2017. Elle propose du contenu lifestyle sur la mode, les voyages, le maquillage, en incitant ses abonnés à se dépasser et croire en eux. Évidemment, son succès peut attirer des jalousies et des commentaires sarcastiques. La jeune femme sait cependant contre-attaquer d'une manière qui reste dans ses valeurs et son ADN, la bienveillance et l'humour. Ainsi, un utilisateur de Twitter qui commente avec étonnement faussement second degré dans un montage photo où elle sextapose une Léna démaquillée avec une Léna maquillée accompagnée de la phrase ah ouais quand même.
Trop là là.
La jeune femme a repris son tweet en répliquant à deux doigts d'inventer le maquillage. Donc voilà, il fait là on voit, tu vois un peu les photos. Donc dans les commentaires, nombreuses sont les internautes qui ont rappelé que ce maquillage signifie avant tout une manière de se transformer et de s'amuser. Le maquillage et le contouring sont présentés comme des façons de se réinventer, loin d'un maquillage contraint pour avoir l'air présentable. L'un d'eux relaie même une vidéo où une jeune femme explique en anglais « Si je passe des heures à me maquiller, ce n'est certainement pas pour avoir tous les jours la même tête ». Pas faux.
C'est vrai.
C'est pas faux. Léna Situation prône donc une nouvelle fois l'amour de soi, la confiance, le body positive avec une bienveillance en toutes circonstances. Donc le 25 septembre, elle a également sorti notamment son dernier ouvrage, mi-carnet perso, mi-livre de développement personnel. Les lecteurs-lectrices pourront y découvrir les conseils de cette jeune femme qui a construit seule sa carrière, sans aide extérieure, après une adolescence pas toujours facile, de quoi nous montrer que la bienveillance et la confiance en soi permet d'avancer et de construire ses projets.
Oui.
Encore, comme d'habitude, on critique. une note un petit peu plus morbide, là, pour le coup. Ah. Donc, mort de Victorine. Comment vaincre notre peur de sortir dans l'espace? Enfin, dans l'espace public, hein, je parle, oui. Hein, pas dans l'espace...
là-haut.
Là, c'est pas la même façon. Donc, depuis l'annonce du décès de Victorine Darbois, cette jeune femme de 18 ans qui avait disparu alors qu'elle rentrait chez elle à pied, de nombreuses femmes se sont emparées des réseaux sociaux. Elles y disent leur peine, mais aussi leur peur de se promener dans les espaces publics. Comment venir à bout de ce sentiment écrasant que nous sommes si nombreuses à partager?
C'est vrai.
Donc le 28 septembre 2020, on apprenait que c'était bien le corps de Victorine qui avait été retrouvé sans vie dans un ruisseau de Villefontaine dans l'Isère. Seulement 2 kilomètres la séparaient de son domicile et elle avait annoncé à sa famille qu'elle les parcourait à pied, après avoir raté son bus. Si les causes de son décès restent inconnues à ce stade, la nouvelle a déclenché une vague de tristesse, de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux. Des jeunes femmes y racontent leur crainte d'évoluer hors de chez elles ainsi que leur stratégie individuelle pour se rassurer. Certains de ces messages ont atteint des dizaines de milliers de likes et des réponses concernant le sentiment de la peur qui nous semblait important d'analyser. Donc je vous lis un message. Entre Victorine retrouvée morte, Wizem disparue après une date avec un gars où la fille tuée puis brûlée à Créteil par son copain, désolé, mais ça me fait trop peur. Avant de sortir, prévenez quelqu'un, dites que où vous allez, avec qui, on n'est jamais à l'abri. Une autre, elle portait un jean et un sweat rose avec des baskets. Il était 19h, est-ce que ça l'a sauvée? Non, la tenue n'est pas le problème. À l'heure actuelle, on sort... À l'heure à laquelle on sort n'est pas le problème. Donc, on voit ce qu'elle veut dire. Donc, il y a eu beaucoup, en fait, de petits mots où on montre que les gens ont très peur. Oui. À la lecture de ces messages, on est saisi par le rappel des faits et on reconnaît dans ce que décrivent les internautes. Quelle femme n'a jamais pressé le pas la nuit? Ça, on peut le confirmer. Dans les couloirs du métro, c'est pareil. Ou ressenti une montée d'angoisse sur un parking désert, ou encore faim d'être au téléphone avec une copine en rentrant chez soi passé 22 heures. Je pense qu'en tant que femme, on l'a toutes fait.
Oui, c'est vrai.
Mais si le sentiment de crainte est bien réel, les faits, eux, montrent une réalité différente. Selon une enquête publiée dans la revue Économie et Statistiques de l'INSEE, les femmes victimes de violences physiques connaissent leur agresseur dans 62% des cas. Et celles des agressions sexuelles dans 70% des cas. On sait aussi que la majorité des féminicides ont pour principaux coupables les conjoints et ex-conjoints, le domicile devenant statistiquement le lieu le plus dangereux pour les femmes. La peur viscérale du tueur inconnu qui surprend la victime en pleine rue repose donc plus sur des stéréotypes que sur des données concrètes. Chaque féminicide de ce type produisant un effet loupe, faut-il pour autant dire aux filles d'arrêter de flipper, voire leur donner des cours de sérénité dans les espaces publics? Évidemment, non. La réponse est politique au sens large du terme. Penser des espaces qui rassurent les femmes. Pour Claire Doussard, enseignante à l'école spéciale d'architecture et chercheuse associée à l'UMR du CNRS, c'est une évidence. Notre rapport à l'espace public repose sur une part importante de ressenti. La principale différence va se jouer entre le jour et la nuit, détaille-t-elle. On ne perçoit pas la rue, le bus ou le parking de la même façon selon le moment de la journée. D'autres facteurs vont jouer sur notre sentiment de sécurité. Dans les transports, des études montrent que les femmes ont besoin d'éclairage pour se sentir mieux. L'ambiance générale, le nombre de personnes autour d'elles, les couleurs ou encore la présence de caméras de sécurité aussi auront aussi un impact positif sur ce qu'elles ressentent. Enfin, en même temps, du monde autour de nous, s'il bouge pas, c'est pareil.
Ouais.
Pour que nous soyons à l'aise hors de chez nous, il faut donc que les politiques d'organisation de l'espace prennent en compte nos facteurs de stress. Exemple, selon Claire Doussard, la station de métro et de RER de Châtelet-Léal à Paris, vaste, très éclairée, dotée de larges quais et couloirs, elle donne en effet le sentiment d'être plus safe que les petites stations tortueuses de la capitale. Alors pourquoi ce type d'aménagement, qui ne semble pourtant pas si compliqué à mettre en place, ne sont pas installés partout? Pour l'enseignante chercheuse, c'est parce que l'espace, aujourd'hui encore, penser selon le prisme d'un homme blanc en bonne santé, sans prendre en compte les personnes handicapées qui gèrent les poussettes ou encore qui sont victimes d'agressions à caractère raciste. On pensera aux femmes noires qui voient leurs cheveux touchés par des inconnus dans les bus ou en pleine rue. Les spécificités géographiques ne sont pas non plus suffisamment prises en compte, alors qu'une citadine ne vivra pas la même réalité qu'une femme vivant en milieu urbain ou bien à la, en milieu sururbain ou bien à la campagne. Enfin, puis au lieu d'aller faire verbaliser pour le Covid, ils ont fait mieux de mettre la police là où elle devrait être. D'accord. Donc Angèle, petite musique.
Donc alors cette fois, je vous passais Hollywood Swinging de Kool & The Gang, sorti en 1974.
Eh bien, on écoute ça.
The stars, movies, women.